Bonjour à tous, Giorgio de la CGT 28. Joël et Jean-Marie, commencez une grève de la faim. Lundi 16 janvier 2006 à 18h30 à la société Lancaster à Chartres du groupe Coty. Ça vous dit rien ce nom-là? Suivi aussitôt par une grève par roulement et par équipe, suivi par une très grande majorité de salariés de la production. Grève pour refuser la remise en cause des acquis sociaux et notamment l'accord de réduction du temps de travail. Pour le respect de la législation du travail, les salaires, les conditions de travail et surtout pour le respect de la dignité des salariés. Les salariés exigent la démission du DRH, ce type irrespectueux des travailleurs ne le supporte plus. Cette grève s'inscrit dans un climat nauséabond de décrets d'ordonnance pour réduire les droits des salariés et de se défendre, réduisant les droits des chômeurs, augmentant la précarité. Les étrennes du MEDEF viennent de tomber. Chers amis, chers camarades, appelez Joël et Jean-Marie au 02 37 91 78 00. Un petit coup de fil pour les soutenir. Un petit coup de fil pour un grand effet. Merci. La grève continue. Ne laissons pas ces salopards détruire nos acquis, nos emplois, notre service public, notre sécu, notre retraite, etc. Salariés, redressez la tête. Tous ensemble, nous gagnerons. Tous ensemble. Tous ensemble.
Bonjour à tous. Suite à l'émission sur Venise et sur le poète Bafo, j'ai apprécié les couleurs, la chaleur et la vie qui se dégage de ces textes, notamment la lecture sur le téton, à comparer avec la même genre de choses de Francis Ponge, poète français mort à la fin des années 80, qui disait en substance « On jouit à la gorge des femmes de la rondeur et fermeté d'un fruit, plus bas de la saveur et jutosité du même ». Je trouve que Bafo est quand même plus agréable à entendre.
23 janvier 2002, 23 janvier 2006, 4 ans jour pour jour que l'éminent Pierre Bourdieu nous a quittés. Sa pensée autorisée, ses réflexions et ses contre-feux manquent cruellement aux débats nombreux qui traversent l'Hexagone. Qu'aurait-il pensé de la fin de l'obligation scolaire jusqu'à 16 ans? Qu'aurait-il pensé du contrat nouvelle embauche, du contrat première embauche? Qu'aurait-il pensé de la loi de février 2005? Et j'en passe évidemment. Pour ma part, je me console en relisant patiemment ce conséquent ouvrage collectif qu'il a dirigé, La misère du monde, publié en 1993. Son contenu n'a pas pris une ride et à ce titre reste précieux. Quel bonjour à vous, c'était Momo de Montpellier.
Oui, salut, là-bas si j'y suis, José Beauvais au téléphone. Voilà, bah écoute, je suis à Bamako, je sais que vous avez déjà parlé de Bamako, du Forum Social, mais ce soir, c'est une soirée un peu spéciale avec ceux qui ont été refoulés du Maroc, les 1000 réfugiés refusés du Maroc, et là, ce soir, il y a une grande fête avec eux, il y a des milliers de personnes, tout Bamako est dehors, il y a plus de 10 000 personnes. Et il y a Kikenja Fakoli sur la scène qui joue pour tous ces immigrés qui ont été refoulés, qui ont été chassés, dont certains sont morts. Voilà, on est sur un terrain vague, un ancien centre épique. Petit bonjour de Bamako dans ce soirée forte d'émotion et de solidarité entre les peuples de la Terre. Salut à tous et bonne journée. Au revoir. C'est José ici à nouveau, je suis avec un ami malien des refoulés de la frontière et je vous le passe sur l'antenne immédiatement.
Bonsoir, bon, moi je m'appelle Issif Sangaré, je venais des régions de Caï, nous sommes rapatriés d'Espagne, Melilla entre Maroc et Algérie. Bon, on est retourné à ma village ici, ma pays ici à Mali, à Bamako. Bon, on est là, mais on est demandé tous les Africains, tous les Européens, on est d'abord tout le monde, on est demandé tout le monde, il va donner nous un coup de main, parce qu'on est là, il n'y a pas de travail, on est dans la souffrance jusqu'à présent. On est demandé tout le monde, pour qu'il va donner nous un coup de main. Merci. Voilà, et bien écoutez, je pense que le message va être entendu et qu'on va tous continuer à se mobiliser pour faire tomber les frontières et pour faire en sorte que chacun puisse vivre comme il l'entend. Salut à vous tous, à bientôt.
Eh, c'est pas tout le monde qui a un prochain, un futur président de la République comme reporter. Ce qui est important, évidemment, c'est le message de ce Malien. Il est de Kai, si vous avez compris. C'était un endroit, si vous vous souvenez, on était allé dans cette région d'où viennent beaucoup des Maliens qui vivent ici, pour ceux qui ont réussi à venir ici. Voilà, des nouvelles donc du front. Aujourd'hui, on retourne dans le grand nord russe. Vous vous souvenez qu'on s'était baladé au nord de Vorkuta, qui est au nord du cercle polaire. Et là, on va rester dans cette ville improbable qui est Vorkuta, et on va s'intéresser au théâtre. Vorkuta, c'est synonyme de goulag, et on voit mal comment le théâtre et la distraction a pu être liée avec cette idée de goulag. Et ben voilà, il y avait du théâtre au goulag, et c'est sur cette mémoire-là qu'on va se balader, qu'on va découvrir aujourd'hui, et on va d'abord passer, vous allez voir, une nuit blanche avec Yuri. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37 et beaucoup de messages intéressants, très très intéressants même, sur le thème des maisons de retraite, des maisons de repos et de la façon dont nos aînés sont traités dans notre beau pays. Envoyez-nous des témoignages, des tuyaux, ça va nous permettre de préparer pour dans les semaines ou mois à venir une série de d'émissions sur ce sujet.
Bonjour à Mermet et à toute son équipe. Je vous remercie beaucoup pour vos émissions. Et je voulais réagir à un message passé aujourd'hui, vendredi. Une dame qui parlait de ses parents pour qui elle trouve pas une maison de retraite. Et je veux dire que moi, j'ai grandi à côté d'une maison de retraite et vraiment, ce sont des garages pour finir les gens. Et dans une société telle que la nôtre, ça me rend malade, ça me rend extrêmement malheureux de penser que mes parents pourraient finir dans un endroit pareil. Parce que après avoir donné tout ce qu'ils nous ont donné, cette génération passée, les laisser terminer comme ça alors qu'ils ont des petits-enfants avec qui ils pourraient partager une expérience extraordinaire, les laisser finir comme ça, ça me donne envie de pleurer. Voilà, merci, au revoir.
Il y avait ici 14 caravanes, toutes brûlées sur ordre du maire. Mercredi dernier, la gendarmerie investit le campement pour procéder à des contrôles d'identité. Les familles roumaines, propriétaires des caravanes, sont absentes. Le maire décide aussitôt d'incendier leur logement de fortune.
Nous avons voulu faire vite et bien. C'était pas la peine de traîner. Il y avait là, un tas d'immondices. Eh ben, soit le mettre dans les bennes, soit le brûler sur place. Écoutez, je vois pas où est le problème.
Voilà. Où est le problème? On se pose tous la question. À bientôt.
Oui, bonjour, je suis Marc de Saint-Brieuc. J'ai été ce matin au cimetière de Saint-Brieuc et je suis allé un petit peu par hasard dans le carré des morts de la guerre de 14-18 et je me suis ressenti assez bouleversé puisque je voyais le nom de gens qui étaient du Sénégal, des gens du Vietnam, j'ai même vu la tombe du père d'Albert Camus et tous ces gens-là, il y a marqué « mort pour la France » dessus. Voilà. Et quand je pense à Sarkozy et compagnie, je voudrais simplement que de temps en temps, ils aillent faire ce petit pèlerinage-là pour voir à quel point la France, c'est divers. Et puis voilà. Voilà, merci.
Oui, Pierre de Valence, c'était juste pour revenir sur le bilan de la présidence de Jacques Chirac. Donc le bilan est globalement négatif, mais il y a quand même un point où sa réussite est totale, c'est celui du procès des H&M de Paris. Après 12 ans d'enquête, aucun des grands noms du RTR ne vont s'asseoir sur le banc des accusés. Chapeau l'artiste et vive la justice indépendante du pouvoir politique. Voilà, salut.
Moi j'avais le K63.
Вещи прекрасные, конечно.
Их нигде
не найдешь. Не поют они. Поют трендобаба, трендодец, похватили, хлеба нет. Ложись баба на кровать, буду хлеба добывать. Peut-être un paillou.
Maintenant, voilà ce qu'ils chantent. Ils chantent de, vraiment des trucs. C'est n'importe quoi ce qu'ils chantent.
Это же суд.
C'était un tribunal.
Дается наказ за то, что ты провинился, верно?
Et le tribunal à l'époque, tu étais forcément coupable.
Слышно неплохо, да?
J'entendais bien.
Октябренок, пионер, комсомол.
Октябрь, пивник.
Конечно, был бы член партии, если бы не посадили.
Mais si on m'avait pas mis en camp, bien sûr que j'aurais été au parti, évidemment.
Мы не знаем, кто. Ярослав Паштов, посол Чешской Республики в Москве.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Aude Merlin. Là-bas, si j'y suis, la baraque la plus gaie du camp.
Flight number 2, arriving from New York.
Combien il y avait de cimetières? Il fallait bien enterrer les détenus. Là où il y avait un camp, il y avait un cimetière.
Parce
que comment on pouvait enterrer les détenus?
D'abord, il n'y avait pas de
cercueils.
Jusqu'en 1950,
avant l'arrivée des troupes du NKVD, il n'y avait pas de cercueils. On les enterrait nus. Sans cercueil.
Пальцы большому к левой ноге и все и под снег зимой.
On les mettait sous la neige. En hiver.
Растает.
Et après quand ça fondait.
Так значит тоже кто-то могилу никто не
рыл. Neige fondait après.
Под мох.
On pouvait faire une petite tombe. On mettait le corps sous la mousse.
Et такой кол забьют.
Et après. On mettait un petit poteau.
Бирочка.
Et une petite planchette en haut du poteau.
Маленькая. Et там номер.
Et là on mettait le numéro.
Там номер.
Un numéro.
Его.
Le numéro du détenu.
Ведь номера были у всех.
Puisque tous les détenus avaient des numéros, les travailleurs forcés, les détenus.
У меня был К-63.
Moi j'avais le К-63.
K63, Yuri Yakovlev. Il est 1h du matin et c'est une nuit blanche. On est au mois de mai, on est à Vorkuta. Gloire à ceux qui ont vaincu le cercle polaire. C'est en lettres géantes au-dessus d'un immeuble en face de nous. Nuit blanche parce que, ben voilà, on est au nord du cercle polaire. Et Yuri, on est chez lui. Ça sent la peinture chez Yuri. Il y a un œillet rouge sur la table. Ça sent la peinture parce que la municipalité avait promis de repeindre à temps les appartements des vétérans pour l'anniversaire de la victoire de la Grande Guerre patriotique, mais voilà, ça a traîné, alors c'est pas tout à fait fini. Voilà pourquoi ça sent un peu la peinture. Mais l'œillet rouge est arrivé avec la carte, avec les vœux du président. Et Yuri a remis son uniforme de marin. De marin qu'il était pendant la Grande Guerre patriotique, qu'il a passé en partie dans sa ville natale, à Leningrad et puis ensuite à Stalingrad. Et il est là, on entend de temps en temps tinter les médailles sur sa poitrine et il est heureux. Il est heureux parce qu'on est là avec Aude Merlin, avec un ami de Vorkuta, Sacha, et moi, et on est venu lui demander de nous raconter sa vie. Et sa vie, c'est à peu près l'histoire du siècle dernier, de ce côté-là du monde, du côté de l'URSS, du côté de ce qui est aujourd'hui la Russie. cet homme qui est là, derrière cette œillette, dans cette odeur de peinture, et avec qui on va passer une bonne partie de la nuit à boire et à manger et à chanter, vous allez voir. Eh bien, lui seul, il est une mémoire qui s'oublie, une mémoire qui s'efface, celle du goulag, celle des camps. Un photographe polonais a dit, cette mémoire-là est cachée dans la poche du temps. Et c'est vrai que peu à peu, tout s'efface des traces du goulag, des goulags, de cet archipel qui s'étendait à travers toute l'URSS. Parce que c'était des baraques et que la neige et le vent les ont emportés, parce que on a voulu faire disparaître évidemment ces traces, parce que personne n'est trop fier de ça, au moment où le sentiment national et le sentiment historique est revenu dans l'esprit et le cœur des Russes, excités, réanimés par l'actuel président. Eh bien, c'est une histoire dont on n'est plus très fier. Et pourtant, ce qui s'est passé là est encore présent, sinon matériellement, mais évidemment dans le cœur et dans la mémoire et dans l'âme de ces hommes-là et dans l'âme de cet homme-là avec qui nous allons passer 7 heures jusqu'à 18 heures là-bas si j'y suis, dans la baraque la plus gaie du camp. Ah, c'est un endroit incroyable quand même. C'est un paysage baigné dans une lumière splendide. Le soleil va se coucher très 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 lentement maintenant. Et la nuit restera claire, hein. C'est presque une nuit blanche. Pour nos amis ici, c'est le printemps quasiment, hein. C'est le début du dégel, on s'émeut d'un bourgeon qu'on croit voir au bout d'une branche. Mais c'est aussi un spectacle absolument désolé. Là, on a un monument assez bizarre, avec un bouquet de fleurs posé à la base, et qui est une énorme caillasse, une grosse pierraille, avec un gros morceau de barbelé. C'est pas d'une très très grande beauté, mais ça va très très bien avec l'ensemble du paysage. Ça veut dire quoi ça, Sacha, ce monument?
Здесь на этом месте предполагалось построить монумент.
On avait prévu d'ériger ici un monument mémorial aux victimes de la répression.
Tiens, viens, on va demander aux gens si ça leur dit quelque chose, ce monument. Dites-nous ce que c'est ça pour vous, ce que ça représente pour vous.
Что это для вас вот представляет этот памятник? C'est le passé de notre pays. La terreur et le passé. Merci.
La terreur et le passé. La terreur et le passé. Voilà ce que ces passants nous ont dit devant ce petit monument qui est là et qu'effectivement personne ne remarque et auquel personne ne tient tellement, sauf notre ami Sacha, parce que Sacha, il s'occupe de Mémorial, qui est une association qui, à travers la Russie, ben, comme son nom le suggère, essaye de faire vivre la mémoire, cette mémoire-là. Mais c'est plus trop la mode en ce moment en Russie. Je sais pas comment on dit « loin de tout » en russe, mais moi je pourrais tout à fait le traduire par « Vorkuta ». Vorkuta, c'est loin de tout. C'est tout au nord de l'Oural, je le disais, à 200 kilomètres au nord du cercle polaire, et on se demande vraiment comment cette ville est arrivée là, comment ça s'est passé, étant donné qu'il n'y a qu'un cordon ombilical très mince qui relie cette ville au reste du monde. C'est comme un cheveu noir sur une étendue blanche et glacée sur la taïga. C'est une voie ferrée. Et c'est tout. Et c'est tout. C'est une de ces villes. Il y en a d'autres dans le Grand Nord russe, ensuite dans la... au nord de la Sibérie, qui sont ces villes qui ont été construites par les zecs, ce qu'on appelle les zecs, c'est-à-dire les détenus, tous ceux qui sont passés par le goulag. Et cette ville est née littéralement de rien, il y avait rien, et cette ville est née, a été construite par les détenus, par les prisonniers du goulag, à partir de 1930-1931. Par dizaines de milliers, ils ont été déportés dans cette ville. On estime à 400 000, 500 000 ceux qui sont passés par cette ville. Ils ont été ensuite rejoints par des civils, par des volontaires qui étaient bien payés pour venir travailler dans ce climat extrêmement difficile. On s'est renseigné cette nuit à Vorkuta, il faisait moins 26 degrés et ça s'est un peu radouci dans la journée. Actuellement, il doit y avoir 4 ou 5 heures de jour, c'est dire la dureté du climat. Et on va donc évoquer le goulag, mais on va évoquer un aspect moins connu ou méconnu du goulag, c'était le théâtre. Il y a eu du théâtre dans ces goulags, notamment à Vorkuta, dans ce camp de Vorkuta, et c'est quelque chose qui a été un peu mis de côté, parce que c'est un peu indécent ce que le théâtre évoque d'émotions, surtout qu'il s'agissait de théâtre qui donnait des comédies très souvent, des opérettes, et ça va très très mal avec l'image et l'idée qu'on se fait du goulag. Mais d'abord on va passer ce moment avec cet homme qui a été lui aussi mêlé à cette aventure du goulag, mais pas seulement. Pour l'instant, on regarde un peu ce paysage étonnant de Vorkuta.
Sacha, là en contrebas, je vois des immeubles d'habitation qui m'ont l'air désaffectés, qui m'ont l'air inhabités maintenant. Hein. C'est en ruine tout ça.
Это все брошено уже целый год уже тут никто не живет.
Oui, ça fait un an qu'il y a plus personne qui vit là-bas.
Les gens sont partis, pourquoi?
Потому что там нет работы, все прекратилось.
Parce qu'il n'y a pas de travail, tout ça a été fermé.
C'est une ville en ruine, hein?
Да, 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 да. Он покинутый, покинутый просто.
Oui, elle est abandonnée.
Alors qu'est-ce qu'on voit en dessous de nous? Ça, c'est le fleuve.
Река Воркута, которая дала название всему этому местности, всей этой городу.
C'est le fleuve Воркута qui a donné son nom à tout ici, à la ville.
Она существовала. По ней добирались первые грузы, первые люди доходили именно по этой реке, и именно здесь, на этом месте, был обнаружен.
Parce que c'est en naviguant sur la Vorkuta que les premiers qui ont découvert le charbon sont venus. Ils ont découvert des gisements de charbon.
C'était à quelle époque, ça?
C'était quand vous le faites la première fois?
C'était en 1930.
C'était en 1930.
Voilà. Et jusque-là, il n'y avait rien ici.
Non. Это место было совершенно пустое, как вот окружающая тундра.
Non, c'était vide, c'était nu comme la toundra qui nous entoure.
Это не заселенная территория, никак не использовалась.
C'était exploité par personne.
Donc on a trouvé du charbon et aussitôt l'idée des soviétiques ça a été installons des camps avec des détenus, avec des zecs qui vont extraire le charbon, et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont extrait le charbon et ils ont construit cette ville de Vorkuta.
Значит, вот представляете, в 1931 году была заложена первая шахта, никакого еще жилья не было построено. Были только времянки, палатки, и вот здесь вот прямо в берегу были выкопаны землянки, вот так вот, на той стороне, прямо в берегу.
Vous imaginez, en 30-31, la première installation de l'autre côté, sans logement. Donc, les travailleurs, les détenus, vivaient dans des tranchées, dans des sortes d'abris au bord de la rivière.
Ah, первые, вот, кто сюда приходили, они все умирали, все оставались здесь.
Les premiers qui sont arrivés travailler ici, ils sont tous morts ici. Ils sont morts très vite.
Не было продуктов, не было жилья.
Parce qu'il n'y avait rien à manger, il n'y avait pas de logement.
Ну даже сейчас вот мое место, вы представляете, что это холодно довольно.
Donc imaginez, déjà là il fait froid.
Кладбище.
нашей машине не дает нам покоя. Папа, пожалуйста, найдите.
Il fait froid, mais ça n'empêche que c'est la fête ce jour-là à Vorkuta pour le 60e anniversaire de la victoire de la Grande Guerre patriotique. Évidemment, c'est un très grand moment pour l'ex-URSS, pour la Russie. Et ce jour-là, c'est la fête des mineurs, puisque Vorkuta est une ville de mines. C'est la raison pour laquelle, évidemment, ces détenus, ces zecs avaient été envoyés dans ces conditions atroces dans cette partie du nord de la Russie. Et la ville a prospéré, la ville s'est développée, on y a construit des bâtiments énormes de style stalinien, et cette ville a été une des grandes images, une des grandes références de l'ère stalinienne. Et puis ça a tenu parce que c'était très prestigieux d'être envoyé là-bas, on y gagnait pas mal d'argent. Je parle de la période qui a suivi évidemment la fin des camps, c'est-à-dire dans les années 60, la fin du camp de Vorkuta dans les années 60, et où les civils, disons, ont rejoint les détenus et les anciens détenus. La ville a connu un développement, et puis depuis quelques années, depuis le milieu des années 80, la ville connaît un déclin, puisque le charbon, l'extraction du charbon connaît aussi un déclin. Alors bon, on essaye de partir de cette ville, on essaye d'aller ailleurs, et ceux qui restent sont ceux qui ne peuvent pas aller ailleurs ou qui espèrent encore que l'exploitation du charbon pourrait reprendre. Donc personne n'est ici de son plein gré, disons, hein. C'est un peu ceux qui ont été astreints de rester, c'est un peu ceux qui sont passés, qui y passent, qui y séjournent, mais c'est toujours pour des raisons d'intérêt, mais c'est pas véritablement une patrie au sens que ce mot peut avoir pour les Russes, hein, par exemple. Alors eh bien, Yuri, qu'on va trouver, lui, il a vécu tout ça, il a vécu ici, il va nous raconter sa vie, il nous attend, et vraiment, Yuri a tout son temps.
Je suis né en 1921, le 7 février.
Où ça?
Je suis né à Leningrad. Et j'ai grandi à Leningrad.
Et
j'ai fait mes études à Leningrad. Et j'ai combattu à Leningrad.
Oui. Un
de mes frères est mort dans le blocus. Au moment de la prise de Leningrad en 1943.
Да. На Пулковских высотах.
Quand le blocus a sauté, en fait.
Он был командир запаса танковых войск.
Lui, il était commandant d'un régiment de tanks de réserve.
И во время боя он высунулся и вылез из этого из люка танка. Его прошили.
Pendant les au moment des combats, il a voulu regarder puisqu'il regardait par la lucarne du tank. Et il est mort. Il a reçu un éclat. Il est mort.
Его жена была в Ленинграде.
Sa femme était à Leningrad dans le blocus.
И ей привезли его прошитую гимнастерку, партийный билет, все привезли.
Et on lui a rapporté la vareuse de son mari défunt ainsi que sa carte du parti à sa veuve.
Значит, за три дня до гибели.
Et j'ai une photo, c'est trois jours avant sa mort.
Вот за три дня. До гибели,
trois jours avant sa mort.
Вот у меня
il s'était fait photographier avec ses compagnons de régiment.
Combien de millions de Russes ont ce genre d'histoire comme mémoire familiale ou personnelle? C'est inimaginable. Ce qu'on vient d'entendre là est une histoire ordinaire pour cette génération, mais évidemment pour les générations qui viennent. Et pourtant, je le disais, cette mémoire, on n'en est pas très fier, comme si il fallait systématiquement toujours faire du passé table rase. Et pourtant, évidemment, c'est là ce jour-là, ce soir-là, même si le soir ne se décide pas à tomber.
Я окончил 8 классов всего.
Война. Mes 8 années d'école et puis après la guerre a commencé.
Я, значит, это было 22 июня.
22 juin.
Нас подняли в 4 часа по тревоге. 4
heures du matin, подняли, on nous réveille en alerte, en urgence.
Учебный отряд.
Tout le détachement d'étudiants.
О войне узнали.
Et là, c'est là qu'on a appris que la guerre avait commencé.
22 juin 1941.
26 июня.
Le 26 juin.
Меня списали на крейсер Киров.
On m'a mis sur le croiseur Kirov.
Да. И я ушел в Таллин.
Et je suis allé à Tallinn.
В Эстонию.
En Estonie.
И в Эстонии.
Et en Estonie.
Я был списан в отряд.
J'ai été transféré dans un.
Противовоздушной обороны.
Dans le détachement de défense antiaérienne.
Морские. Батареи были, морские.
C'est une batterie de la marine, да. Batterie navale.
Вот. И я участвовал в боях под Таллином в Пирите. Там есть такое местечко Пирита.
J'ai participé au combat de Pirita, вот, c'est près de Tallinn.
Да. И я там участвовал в боях.
Là, j'ai combattu.
У меня до сих пор есть форма, между прочим.
J'ai encore mon uniforme, d'ailleurs.
Я,
encore
aujourd'hui.
Да. Oui, oui, oui.
С наградами.
Avec les décorations.
Там их много.
Il y en a beaucoup.
Попадаю к своим. Прихожу к своим.
Et donc j'arrive vers les miens, les soviétiques.
Нас формируют и отправляют под Сталинград.
Et on nous recrute, on nous forme et on nous envoie vers Сталинград.
И нас там уже командировали и все.
On nous a équipés.
Под Сталинградом. Должны были оружие выдать.
On devait nous donner des
там
armes.
Там бы, конечно, выжить, это... 10-15%. Там было страшные
Ceux
бои в то время.
Ceux qui survivaient, c'était seulement 10-15%, parce que ces combats-là étaient terribles.
Лето 42 года.
C'était en été 42.
Там были бои страшенные.
Il y avait des combats absolument horribles.
Ну, еще бы день мы нас перебросили в Сталинград.
Après, on nous a transféré à Сталинград, à travers la Волга.
Там бы мы начали борьбу.
Et là, on devait commencer à se battre.
Et Youri est fait prisonnier par l'armée allemande et ça va donner un prétexte pour l'envoyer en camp, en goulag. D'être prisonnier des Allemands, il va devenir prisonnier dans son propre pays. Pourquoi ? Parce que Staline considère que ces prisonniers-là sont des déserteurs, ils avaient qu'à se battre, il fallait se battre jusqu'au bout, pas un pas en arrière, avait-il dit, et ceux qui étaient faits prisonniers étaient des lâches. Ça a été un prétexte pour envoyer quelques centaines de milliers d'hommes, parfois aussi de femmes, dans les camps. Il faut rappeler un peu rapidement l'histoire du goulag qui commence en 1929-1930. On peut la faire commencer avant. Il y a eu des camps auparavant, dès les lendemains de la révolution d'octobre. Très rapidement, il y a eu une répression et des camps. Mais c'était après tout que continuait une vieille coutume tsariste sans remonter à la construction de Saint-Pétersbourg même, qui avait été faite par des détenus, un peu de la même façon. Donc, 1929, là, les choses s'organisent systématiquement dans trois buts. L'un, évidemment, c'est d'éliminer les adversaires ou les dissidents au régime. Il y a une deuxième raison, c'est de contrôler et d'asservir la population, évidemment. Et puis, troisième prétexte, ou troisième raison, c'est de produire et d'extraire du bois, du charbon, comme à Vorkuta, ou de travailler sur des canaux, la construction de canaux, de voies ferrées, de centrales hydroélectriques, et ce sera des millions d'hommes qui travailleront sur tous ces chantiers dans cet archipel du Goulag qui s'étend à travers tout l'empire jusqu'au fin fond de la Sibérie jusqu'au Grand Nord. En 1930, il y a 140 000 détenus, 300 000 en 1932, 1 million en 1935, presque 2 millions en 1941, et au moment de la victoire en 1945, c'est 2,5 millions de détenus qui sont dans ce goulag. Lors de la mort de Staline en 1953, 2,8 millions hommes sont dans ces camps. On se souvient des ouvrages évidemment de Solzhenitsyn et de Chalamov qui ont raconté ce qu'ont été ces camps inutiles de dramatiser et de faire de l'indignation rétrospective, mais c'est quand même pour cette raison, donc pour avoir été fait prisonnier par l'armée allemande, que notre ami Youri, 83 ans aujourd'hui, a été considéré comme un ennemi du peuple et envoyé à Vorkuta pour 10 ans.
Subitement arrive l'ordre de Staline qui dit que ceux qui ont été faits prisonniers sous l'occupant doivent passer au contrôle d'État.
Et nous, qui
étions
prisonniers,
donc tous ceux qui avaient été en prison, faits prisonniers de guerre, on a été mis dans un wagon à bestiaux.
Et on a
été envoyé au camp de contrôle
NKVD, да.
Du NKVD.
Ну и я там нахожусь в этом лагере.
Je me trouve dans ce camp pendant 6 mois.
Значит, этот следователь все выбивал из меня задание. С каким заданием я пришел?
Le juge d'instruction.
Я говорю, брат, с какой заданием?
Il me donnait des missions. Je dis, mais quoi, quelle mission?
Я пришел, чтобы воевать опять.
Moi, je suis venu pour combattre.
Я говорю, какой изменник? А он говорит мне, ты изменник родины.
Il dit non, toi, tu es un traître à la
фашист,
patrie.
Fasciste,
fasciste. Tu t'es vendu aux fascistes.
Я говорю, ну хорошо.
Je dis bon.
Где это видно, что я продался фашистам?
Alors, prouvez-moi que je me suis vendu aux fascistes. À quoi vous voyez ça?
Ну и короче говоря.
Et finalement,
он говорит, все равно я тебя фашист сделаю.
Il a dit, de toute façon,
посажу тебя на 10 лет.
Je ferai de toi un fasciste et je te mets en camp pour 10 ans.
Да, посажу тебя на 10 лет.
Je te condamne à 10 ans.
De Vorkuta, quand vous êtes arrivé, à quoi ressemblait la ville?
Да что? Это был маленький городишко.
C'était tout petit village.
Здесь сплошные лагеря были.
C'était des camps entiers, que des camps. De détenus.
Вольнонаемных были единицы всего.
Il y avait très peu de travailleurs volontaires qui étaient venus sur contrat.
Солдаты.
Et puis les soldats.
Которые охраняли.
Et les soldats qui gardaient les camps.
Вот, да.
Voilà. Et tout le monde travaillait à la mine.
И в шахтах, и на поверхности,
dans la mine aussi, en surface, et aussi à la construction, dans les usines.
Где только можно, везде.
Partout où on pouvait travailler.
Пошивочных мастерских, и то женщин.
Les femmes travaillaient aussi dans des ateliers.
Женщины там работали.
Les femmes détenues.
Причем шахта, если я не ошибаюсь,
si je me
вторая
pas,
была женская.
La mine numéro 2 était une mine de femmes.
Там женщины работали.
C'était des femmes qui travaillaient là-bas.
Ну и вот, значит, это самое. Я, когда освободился,
quand j'ai été
нам
libéré,
документов не давали нам,
on donné nos papiers,
кто осужден был особым совещанием за измену
Родины.
Ceux
qui avaient été jugés par une commission spéciale et déclarés ennemis du peuple, ennemis de la patrie, n'avaient pas de papiers.
Вот такие справки, бумага.
On donnait juste un petit papier.
Ни паспорта, ничего нам не
давали. Pas de паспорт, pas de papier d'identité, rien.
И на этой бумаге написано, что такой-сякой,
Et il y avait écrit sur Яковлев, ce papier,
donc
Яковлев,
Яковлев, Яковлев, Юрий Михайлович,
Юрий Михайлович.
Значит, освободился из лагеря тогда-то,
a été libéré de tel
и
camp,
выселен навечно в пределы города Воркута.
Et doit vivre dans la ville de Воркута.
Ah, on a voulu vous garder.
Мы раз в неделю ходили в милицию.
Chaque semaine, on allait à la police.
И отмечались, вот мы живы.
И он devait pointer, dire qu'on était vivant.
Раз в неделю.
Une fois par semaine, obligatoirement.
Значит, в 57-м году.
En 57.
С меня была снята судимость, donc, полностью амнистирована.
Ma faute a été annulée par amnistie.
Со снятием судимости.
Voilà la fameuse amnistie que ces zecs ont attendu parfois jusqu'au cours des années 80. Certains ont été amnistiés assez rapidement après 1956, mais beaucoup ont attendu très très longtemps cette fameuse amnistie. Et puis beaucoup, après leur libération, ont été assignés à résidence, si on peut dire. Donc ça a été des libérations tout à fait limitées, mais pour beaucoup, ils n'avaient plus aucun endroit où aller après des années de goulag, ils n'avaient plus de famille, ils n'avaient plus de lien. Et c'était aussi le cas des gardiens. On avait vu, si vous vous souvenez, il y a bien longtemps, des camps comme ça, vers Roserlag, où on avait rencontré d'anciens détenus qui avaient eu des liens familiaux avec d'anciens gardiens. Bien, mais ceci est une autre histoire. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Yuri.
И вот, значит, 50, после освобождения, 57 году, приехала ко мне мама.
Ma mère qui est venue me voir de Ленинграда.
Вот, она, между прочим, она всю блокаду пробыла в Ленинграде.
Et elle, d'ailleurs, elle a passé tout le blocus de Ленинград.
Когда ей предложили эвакуироваться с Ленинграда, бросить среднюю полосу. Она говорит, я родилась, она коренная ленинградка, я родилась в Ленинграде.
Quand on lui a proposé d'être évacuée du blocus, elle a dit, moi je suis née à Ленинград, j'ai grandi à Ленинград, je mourrai à Ленинград. Elle a refusé.
Ну, значит, ну она приехала, побыла здесь.
Elle est venue me voir ici.
Первый раз через 18 лет.
La première fois, c'était 18 ans après.
Как она старенькая, все стало.
Ты devenue vieille.
Совсем уже худая, такая изможденная.
Toute maigre.
Перепрожить эти блокадные Ленинград.
Elle avait vécu. Comment vous pouvez imaginer?
Я-то там воевал.
Qu'on puisse vivre dans le blocus de Ленинград. Moi, j'ai combattu.
Воевал. Я видел, что делалось с людьми.
J'ai vu ce qu'on faisait avec les gens dans le blocus de Ленинград.
Умирали.
Les gens mouraient.
On dit qu'il y a eu du cannibalisme pendant le blocus.
Было.
Oui.
Было.
Oui, il y en a eu.
И расстрелы были за это.
Et on fusillait pour ça.
Было людоедство.
Oui, il y a eu du cannibalisme.
Да. С этой, с командой-то, с этой, они быстро набирают, очень быстро набирают эти истощенные, быстро набирают это все. И их берут.
C'était, il y en avait qui étaient, да, qui mouraient d'épuisement.
Оздоровительные команды, так называемые. Вохров, пару вохровцев с винтовками. И везут на кладбище, там кладбище от Ичиги, на седьмом, на седьмой там кладбище.
C'est le cimetière numéro 7.
На седьмой, эти как их, сани, сани широкие, такие развальни называются, крестьянские сани.
Avec вот. Des traîneaux de paysans.
А сверху этими там... старыми какими-нибудь тряпками
или одеялами, chiffons, закроют, couverture pour recouvrir les corps.
И
On attelait des détenus, quatre détenus.
Et
ils tiraient le traîneau derrière.
C'était
des détenus.
Yuri, il y a une chose qui m'intrigue là. Il y a une grande photo qui vous représente derrière un micro. Qu'est-ce que vous faites là?
Je chante.
Et vous chantez quoi?
Romances tziganes,
starines.
Des vieilles romances tziganes, pour, essentiellement.
Mais vous allez nous chanter une romance
tzigane. Ah, vous n'avez pas été tziganesque romance. Je peux vous chanter. Il y a une romance.
Quand
a lieu la séparation?
Это старинный романс.
C'est une très vieille romance.
Мама же пела прекрасно.
Maman la chante très bien.
Я был маленьким совсем еще. Вот она после спектакля придет домой.
Et elle revenait du spectacle à la maison.
Она перепела в Ленинграде.
Parce qu'elle chantait à l'opéra à Ленинград.
Ну и меня поднимает.
Après elle me relevait.
Сажает рядышком.
Et elle m'assied à côté d'elle.
Ну и вот поет.
Et elle se
met à
chanter. Et moi, j'écoutais.
Когда в предчувствии разлуки мне нежно голос воззвучал, когда смеялся я ваши руки в своих руках отогревал, когда дорога светлой даю меня манила из глуши, и я вашей тайной печалью гордился в глубине души.
C'est quand la séparation arrive, j'ai envie d'avoir tes mains dans les miennes, mais mes mains sont froides. Tu as pris la route, je t'attends. Quand arrive la séparation, j'ai le cœur qui se renverse. Quand arrive la séparation.
Et des chansons, il y en a d'autres. Yuri, il a été à Vorkuta, un chanteur. Il chantait son art, parce que c'en est un, est lié à cette histoire du théâtre au goulag, pas seulement au goulag ou dans le camp de Vorkuta, mais dans pas mal de camps à travers l'archipel du goulag, il y eut du théâtre. Alors, on a envie de lui poser 1000 questions à cet homme qui a 85 ans aujourd'hui et qui a une mémoire aussi précise et aussi distante, parce qu'il ne fait que décrire les choses de peur, peut-être, en les tenant à distance, qu'elles ne lui sautent dessus et lui broient ce qui lui reste de cœur. C'est bien possible. Mais on sait aussi que Vorkuta a été un lieu historique à cause des dissidents qui y ont été détenus, notamment des dissidents trotskistes qui ont été massacrés dans les années 30 sur ordre de Beria, et il y a une révolte fameuse aussi après la mort de Staline en 1953. Yuri, pendant la période du goulag à Vorkuta, est-ce qu'il y a eu des soulèvements? Est-ce qu'il y a eu des détenus qui ont essayé de fuir?
Moi, j'étais déjà libéré. Mais là, il y a eu une très grosse rébellion.
Et ici, et puis d'autres.
Quand j'ai été libéré, et au mois de mai,
il y a eu une
énorme... C'était à la mine numéro
7.
La mine du Nord. Il y avait un OLP là aussi. Notre camp s'est levé. La numéro 29 s'est levée. C'était une énorme rébellion.
На Ичиге только 4,5 тысячи.
À Yalchega aussi, il y avait 1000 détenus.
Qu'est-ce qu'ils voulaient? Pourquoi cette rébellion?
Восстание это было, чтобы рассмотрели дела, ведь сколько освободили после восстания. чтобы рассмотрели дела, пересмотрели по-настоящему.
Вот причина. Équitable. Voilà, c'est ça la revendication.
Quel dossier?
Ну, за что они были посажены?
Dans le dossier judiciaire.
Ни за что.
Pourquoi ils avaient été mis en camp? Puisqu'ils avaient été mis en camp pour rien.
И вот они поэтому восстали.
Et donc ils se sont rebellés pour demander.
И так далее. Не было никакой реакции.
Il y a eu
aucune réaction.
Et alors, ils ont décidé d'entrer en rébellion puisqu'on n'examinait pas leur dossier.
Генерал же прилетал сюда. Его же дал команду.
Il y a un général qui est venu ici.
Стрелять по этим. Заключенным на
29-й.
Там хотели.
Il y avait des exécutions. Des exécutions dans ces camps. Il y avait les détenus qui s'entretuaient, un détenu qui tuait un autre détenu.
Pourquoi?
Причин было много.
Et beaucoup de raisons.
Разных. Особенно когда приходили этапы.
Surtout quand arrivaient de nouveaux convois.
С Магадана.
De Magadan.
Приходили. Задание. Вот эти воры честные, которые не работают на начальство. На начальство. Они, значит, давали этим людям задание.
C'était ce qu'on appelait les voleurs honnêtes, ceux qui étaient sous la coupe des chefs de camp, qui étaient envoyés ici dans un camp à Vorkuta, donc des pillards ou des voleurs des droits communs de Magadan, qui étaient envoyés ici dans les camps à Vorkuta.
Et les femmes?
L'OLP de femmes, il était séparé, le camp de femmes.
Женщины были отдельно в волпах.
Les femmes étaient dans des camps à part.
И там вся и охрана женщин.
Et les gardes étaient des femmes.
Единственное, на выставках, те, которые охранники не касаются заключенным женщинам, те стояли только на вышках. На вышках.
Мужчины.
Мужчины, да.
Seuls les miradors étaient des hommes. Armée.
Et quel contact vous aviez avec les femmes? Alors comment vous faisiez pour rencontrer les femmes?
Никак.
C'était impossible.
Никак.
C'était impossible.
Единственное, что эти были случаи, когда подкупали в охру, а они отпускали их ночью за пределы лагеря.
Sauf si on arrivait à acheter un gardien et donc à pouvoir faire passer quelque chose à travers le camp.
Ça arrivait, ça?
Было, конечно.
Il y a eu des cas, bien sûr. В театре
было. Ну, все это за мзду определенную.
Et ça, il fallait donner de l'argent pour ça.
Mais c'était très difficile. Alors, comment on faisait pour l'amour, pour la sexualité? Ça veut dire qu'il y avait de l'homosexualité parmi les détenus?
Были, oui. Полно.
Oui, il y en avait plein.
Полно.
Youri Mikhailovitch Yakovlev, on le retrouvera demain et cette fois avec ses chansons, parce que vous allez voir, il a tout un répertoire et puis il a toute cette mémoire formidable. Donc demain on reste à Vorkuta. Traduction Aude Merlin. Merci aussi à Sacha. Un spectacle a été monté sur ce thème du théâtre au Goulag de Judith De Paul qui s'appelle « Qui ne travaille pas, ne mange pas », revue de théâtre au Goulag. Toutes les informations sont disponibles sur le site de Radio France à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Technique aujourd'hui, Antoine Viossa et Julien Chabassu. C'est Yann Chouquet, Coy Nguyen et Raphaël Moutard qui ont réalisé cette émission modeste et géniale, assistée de Pascal Pascariello et de Christophe Imbert pour le répondeur dont le numéro est le 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37, et le mail de l'émission c'est daniel.mermet@radiofrance.com. réclame.